mail avec Anna Cabana. Bonsoir Anna.
Mais bonsoir.
Éditorialiste. Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Ah, hop, petite évacuation du plateau. Je vous en prie, le temps de laisser Alain et Anna discuter. Alain Duhamel, la question, elle est toute simple. Est-ce que le gouvernement peut échapper au 49-3?
Écoutez, je pense que recourir au 49-3, ce serait un double échec. D'abord, évidemment, pour Elisabeth Borne, ce serait un camouflet, puisqu'elle a cessé de dire qu'elle voulait tout faire pour l'éviter. Donc, ce serait un camouflet. Et ensuite, d'un point de vue démocratique, ce serait parfaitement constitutionnel, ça n'est pas la question, mais adopter une réforme aussi importante, aussi symbolique, ayant des conséquences aussi directes sur la vie des gens, sans qu'il y ait au moins une fois un vote positif de l'Assemblée nationale, eh ben ça pose des problèmes. Et on voit très bien d'ailleurs ce que seraient les conséquences. Il y aurait une hystérisation des débats à l'Assemblée nationale
comme
durable.
Comme s'il y avait besoin, voilà.
Voilà, comme s'il y en avait besoin. Et il y aurait évidemment une radicalisation d'une partie du mouvement syndical et de poursuites de grèves, de blocages, etc. Donc ça serait très mauvais. Donc je pense que ça vaut la peine de prendre le risque d'aller au vote normal, d'autant plus que je crois que c'est jouable.
Alors, non. Il faut quand même se souvenir d'une chose, et je vais faire un petit peu de psychologie politique, cher Alain Duhamel, parce que je sais que vous aimez ça. Emmanuel Macron, parmi les grandes épreuves fondatrices de son existence politique, il y a le moment où lui est ministre de l'économie, n'est-ce pas, sous Manuel Valls, Premier ministre, et il veut faire passer la loi Macron 2 sur la croissance et l'activité. On est en janvier 2015, et c'est Manuel Valls qui tord le bras de son ministre de l'économie en lui imposant un 49-3, alors même qu'Emmanuel Macron dit « ça passe ric-rac, mais ça passe ». Il avait travaillé au corps chaque député, chaque amendement, chaque article, et il pensait que sa loi allait passer et qu'il avait besoin, lui, Emmanuel Macron, de la légitimité parlementaire. Donc Emmanuel Macron est un traumatisé du 49-3, et donc il y a une ironie, au fond, de l'histoire politique dans la situation d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qui joue le rôle de Macron 2015? Eh bien, c'est Elisabeth Borne. C'est Elisabeth Borne qui, chaque jour, dit à Macron, c'est ric-rac, mais ça passe. Et c'est Emmanuel Macron qui va devoir prendre la décision qu'a dû prendre Manuel Valls en 2015, c'est-à-dire de prendre le risque ou de ne pas prendre le risque. Je trouve que voilà, j'adore l'histoire politique pour ça, parce que précisément, ça crée des ironies dingues, avec une blessure politique matricielle, et aujourd'hui, on est des années après, et c'est lui qui est dans ce rôle-là, et qui doit voir s'il est, il est encore aussi ardent et aussi audacieux qu'il l'était en 2015.
Le plus important pour Emmanuel Macron, quel que soit le mode opératoire, c'est de faire adopter cette réforme des retraites.
Bah évidemment, c'est son objectif, mais si elle est adoptée par un vote positif de l'Assemblée nationale, je ne dirais pas que c'est idéal,
mais
c'est un succès politique, il aura atteint son objectif. S'il est obligé de faire passer par le 49-3, c'est hystérisation générale, c'est rancœur, c'est ressentiment, c'est polémique, et surtout, ça donne le sentiment qu'on entre dans une phase où le gouvernement, qui déjà est ric-rac, serait encore plus affaibli, serait susceptible de sauter à un moment, et avec des motions de censure dont on ne sait jamais à ce moment-là ce qu'elle pourrait finir par donner, parce que les mouvements d'humeur, là on retrouve la psychologie politique d'Anna, elle sera ravie, mais les mouvements d'humeur chez les députés, ça existe aussi.
Et vous croyez vraiment qu'une motion de censure pourrait être votée si on en arrive là? Parce qu'il faudrait qu'elle soit adoptée à la fois par la gauche, par le Rassemblement national, par la droite.
Bon,
on entend
facile.
Déjà les gens de gauche dire « pas question de mêler nos voix à Marine Le Pen ».
Oh, mais c'est facile parce que Saint-Charles de Courson donne le ton. Il dit...
Vous l'appelez Saint-Charles.
Oui, j'appelle Saint-Charles de Courson.
Vous l'avez baptisé
député centriste.
Député centriste.
Bien
qui est
connu,
qui est le symbole du petit groupe qui, en fait, pourrait, si lui déposait une motion de censure, obtenir un ralliement et de la gauche et de l'extrême droite,
et faire tomber
voire de certains
le
parlementaires.
La motion transpartisane, c'est ça, c'est telle qu'elle
est. Et il serait mieux placé pour ça.
D'accord.
Oui, il y a un fantasme de cette possibilité-là, et ce fantasme, il gagne aussi les rangs de la Macronie pour les angoisser. Mais il y a quand même dans cette diabolisation du 49-3 quelque chose là aussi où c'est au fond le serpent qui se mord la queue, parce que c'est les macronistes qui ont été les premiers à communiquer abondamment depuis déjà maintenant 6 ans sur la question du 49-3 en disant au fond il faut moderniser le 49-3, c'est pas moderne, bien sûr on y a le droit, mais il faut faire de la politique autrement, etc. Et là c'est eux, les macronistes, qui se retrouvent pris dans leur propre contradiction, parce qu'ils peuvent pas venir devant les micros défendre le 49-3 en disant c'est une arme merveilleuse, donc ils sont honteux, ils ont de toute façon le 49-3 honteux, parce que là aussi dans l'histoire de leur positionnement politique, mais, ils se sont construits contre ça.
Tout ça, c'est vrai, mais ça,
ben
c'est,
oui.
Mais ça s'est toujours passé comme ça.
Oui, mais la diabolisation, elle est très loin.
Ça s'est toujours passé comme ça, selon qu'on est dans l'opposition et qu'on arrive au pouvoir, ou inversement. Hein. Quand on est au pouvoir, on trouve que 49-3, c'est certes regrettable, mais que c'est fait pour ça.
Oui, mais la
quand
révolution,
on est dans l'opposition,
Macron,
on dit que c'est un déni de démocratie.
Alain,
c'est de la mécanique, c'est pas de la psychologie,
Alain,
c'est de la mécanique.
Non, bien sûr, mais la révolution Macron, c'était aller encore au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il voulait inventer un mouvement révolutionnaire qui emporterait les choses.
De toute façon, à ma connaissance, la seule bonne solution en ce qui concerne les motions de censure, la seule chose qui soit créative et positive, c'est ce qui se passe en Allemagne. C'est-à-dire que pour déposer une motion de censure, il faut s'être mis d'accord sur le nom de celui qui formerait le gouvernement si ça passait.
Mais ça, Alain, vous savez bien qu'on...
Autrement dit, qu'il y a les bases d'une coalition alternative.
Alors, vous savez bien qu'on ne sait pas faire ça en France. Vous le savez mieux que personne.
Ben oui, mais on a tort.
Est-ce que parmi ces députés hésitants, voire qui ont un peu peur de la réaction de leurs électeurs, est-ce que finalement, le 49-3 ne les arrangerait pas?
Ah, mais c'est clair, les Républicains, ils vous le disent. Enfin, ils vous le disent pas encore devant les micros, mais ils préféreraient que le gouvernement dégaine un 49-3, parce que ça ne les mettrait pas.
Ça les divise pas, oui.
D'abord, ça n'étalerait pas leur division plus encore au grand jour, point 1. Et point 2, ça ne les mettrait pas face à leurs électeurs. C'est-à-dire que chacun d'entre eux est comptable de son vote devant ses électeurs. Et là, aujourd'hui, les électeurs, ils sont pas très favorables à cette réforme. Donc, si vous voulez, pour leur petit confort de chacun de ces élus, le 49-3 ce serait formidable. En revanche, il y en a une qui peut perdre gros, en fait, parce qu'elle a joué gros sur le non 49-3, c'est Elisabeth Borne. C'est ce que vous disiez. Mais même vis-à-vis de Macron. C'est-à-dire que c'est elle qui a expliqué à Macron qu'elle allait pouvoir passer sans le 49-3.
De toute façon, si...
En lâchant tout ce qu'elle pouvait lâcher aux Républicains.
De toute façon, si le gouvernement est obligé de passer pour le 49-3, Elisabeth Borne est évidemment en sursis. Ça va de soi. C'est sa présence à la tête du gouvernement.
Donc il y aura un remaniement forcément derrière.
Forcément, pas mécaniquement, mais... On irait de plus en plus vers ça. Bon, de même que s'il y avait une motion de censure votée, je ne crois pas, bien qu'il y ait quand même quelques parlementaires républicains qui disent qu'ils la voteraient vraiment. En tout cas, ils le disent.
Ils le disent maintenant.
S'il y avait ça, on irait à une dissolution.
Mais pourquoi en est-on arrivé à cette dramatisation du 49-3, qui est une arme de la Ve République, qui a été utilisée quasiment par tous les présidents, même quand ils avaient une majorité absolue? François Hollande l'a utilisé, on parlait de Manuel Valls justement, Chirac, etc. Pourquoi tout d'un coup ça devient dramatique d'utiliser cette arme constitutionnelle?
Mais alors, d'abord,
inventé par le général de Gaulle et Michel Debré.
Inventé en réalité par les anciens caciques de la 4e République, tous les présidents du Conseil exaspérés de ne pas pouvoir gouverner et qui ont supplié qu'il y ait ça dans la Constitution. Voilà. Bon, maintenant ça existe. À chaque fois qu'il y a un texte, en réalité, quand il y a un texte qui est très symbolique, quelque chose qui touche les gens et qui les concerne, dans ces cas-là, il y a polémique sur le 49-3. S'il s'agit de textes techniques qu'on veut faire passer plus vite, etc., c'est pas un problème.
Oui, là,
si ça concerne les gens qui le savent et que c'est un sujet public, et en ce moment, Dieu sait que c'est un sujet public en ce moment, à ce moment-là, évidemment, il y a une polémique.
Oui, mais là, vous avez vu que la polémique s'emparait même des sujets techniques. C'est-à-dire que le 49-3 est devenu une arme difficile à utiliser, même techniquement. C'est l'évolution de la politique d'aujourd'hui. Si, il y a plus de colère, plus de dramaturgie là-dessus. La fureur se cristallise là-dessus.
Il y a plus de colère parce que les Français ne sont toujours pas convalescents du Covid. C'est pour ça qu'il y a d'abord plus de colère. C'est parce que les Français ont été traumatisés pendant 2 ans.
Et des conditions peut-être de la réélection d'Emmanuel Macron aussi.
Et les conditions de la réélection et la poussée d'inflation et l'Ukraine. Je veux dire, on est dans une une période ultra anxieuse.
Ben, vous donnez raison à ceux qui disaient que ce n'était pas le moment de faire cette réforme.
Alors, c'est jamais le moment de faire des réformes en France.
Enfin,
ça, vous le savez très bien. Non, non, mais quel que soit le domaine, c'est jamais le moment.
Il y a aussi
Mais cela dit, je répète, parce qu'il faut le faire à chaque fois, que je ne suis pas favorable à cette réforme-là.
Vous préfériez la précédente.
Mais pas celle-là.
Mais Elisabeth Borne, elle était quand même une des premières avocates contre l'anti-49-3. C'est-à-dire depuis très longtemps, Elisabeth Borne, elle a un discours sur 49-3 qui montre une vraie hostilité.
Oui, mais ça compte donc, que quand elle est Premier ministre.
Mais bien sûr.
Autrement, on s'en fiche.
Non, mais ça, on est bien d'accord. Mais ça veut dire qu'arrivant à Matignon, eh ben, elle est aussi porteuse, au fond, d'une dramaturgie particulière associée au 49-3. Et c'est quand même, elle a fait tous les deals qu'elle a passés avec les Républicains, Alain. Elle les a passés, enfin, la façon dont elle en a parlé à l'Élysée et à Emmanuel Macron, c'était précisément pour éviter le 49-3.
Bah,
depuis le début, elle a une seule obsession, Elisabeth Borne, c'est d'éviter le 49-3. Et quand on lui a dit.
Non, elle a une autre obsession, c'est de faire passer son texte.
Non, certes, oui.
Bah oui.
Certes, oui. Mais
bah, oui.
De le faire passer en évitant le 49-3 coup de coude. Et c'est comme ça qu'elle a expliqué à Emmanuel Macron qu'elle allait lâcher les 60, enfin, des 65 à 64 ans très, très tôt, qu'elle allait lâcher, enfin, dealer avec avec Ciotti et Marleix, alors que lui trouvait qu'elle allait peut-être se demander un peu vite et peut-être un peu loin.
Un peu vite, un peu loin.
Et tout ça, elle l'a fait pour le 49-3. Et là, maintenant, eh ben, elle se retrouve, au fond, taxée potentiellement de naïveté. C'est ça le sujet. Est-ce qu'elle est.
Non, le sujet, c'est.
Ben, si, c'est aussi le sujet.
Le sujet, c'est est-ce qu'elle est obligée d'y recourir malgré elle et elle a perdu ou bien est-ce qu'elle peut l'éviter et elle a gagné
En tout cas,
justement, dans les hypothèses, je ne sais pas. Entendu simplement émettre l'hypothèse que l'Assemblée rejette tout bonnement le texte et qu'elle dise non. Au dernier final, vous voyez, le coup de théâtre des parlementaires, on compte ses voix, c'est les comptes d'apothicaire et puis boum, ça passe pas.
C'est imaginable, ça signifie...
C'est déjà arrivé ?
Non. De toute façon, il y a une seule motion de censure.
Donc Emmanuel Macron prendra pas le risque.
Dans l'histoire, il y a une seule motion de censure qui soit passée, c'est en 1962, etc.
Mais simplement que vous voyez que l'Assemblée, au dernier moment, les députés disent l'Assemblée se retourne.
Ils ont droit, c'est possible. Ça signifie que c'est probablement la fin du gouvernement Borne. Ça signifie qu'on entre dans une période.
De turbulence.
De grande turbulence politique, de grande instabilité politique, avec peut-être à ce moment-là une dissolution, et s'il y a une dissolution, une assemblée encore beaucoup plus ingouvernable qu'aujourd'hui, avec un Rassemblement national fortifié, avec une NUPES divisée, avec une renaissance, les macronistes rétrécis.
Et on ne sait pas ce qu'il reste les Républicains.
On ferait de la 4e République.
Ouais. Et vous avez oublié les Républicains dans votre panorama.
Mais lesquels ?
Et bien précisément.
Mais maintenant, il y a des Républicains partout.
Un mot quand même, parce que Bruno Le Maire disait quand même une chose assez juste. Ça, c'est incompréhensible de voir un Sénat de droite voter pour la réforme et des députés de droite s'interroger sur savoir s'il faut la voter ou non. Donc,
c'est parce qu'au Sénat, ils ont fait et ils font et ils feront ce qu'ils ont toujours dit. C'était leur projet. Le projet Macron-Borne, c'est d'abord le projet du Sénat. Hein. C'est à ça que ça ressemble le plus.
Ça veut dire quoi, c'est le projet du Sénat ?
C'est le projet qu'au Sénat, chaque année, on votait par amendement au moment du budget.
Mais c'est
à ce moment-là, évidemment, c'est parfaitement logique de la part des sénateurs. Disons les pradiers, pour simplifier les choses, ceux qui, en revanche, sont tentés de voter contre la loi, voire pour une motion de censure, eh ben ceux-là, disons que on dit ils sont plus sociaux que les autres. Ils sont pas plus sociaux que les autres, ils sont moins disciplinés et ils ont changé d'avis en moins de 6 mois. Ils font de la politique.
Mais le Sénat, quand même, est sorti de cette séquence des 10 jours de débat un petit peu secoué. C'est-à-dire que, bien sûr,
ils ont... Oui, mais rehaussé.
Oui, les deux, Alain. Il y a double lecture, parce qu'en fait, en effet, donc ça a été voté à 23h40, samedi.
Bah, oui.
Gérard Larcher a tenu son histoire. Très bien. Mais dans le même temps, ils ont eu une gauche sénatoriale telle qu'ils ne l'avaient jamais vue. Et en fait, ça les a, si vous discutez avec les uns et les autres, vous verrez, ils sont tous traumatisés par cette gauche sénatoriale mélanchonisée, hein, comme ils disent maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont vu l'obstruction. Ça n'existait pas au Sénat.
Mais non, mais surtout.
construction non, comme surtout, de ce genre et avec cette ampleur, non,
surtout,
Alain.
Vous savez bien que c'est surtout,
Patrick Kanner l'insoumis.
Ben oui,
voilà, c'est ça. C'est Patrick Kanner qui est le président du groupe socialiste, qui avait dit que, bien entendu, ils défendraient leurs idées, mais qu'ils joueraient le jeu et qu'il n'y aurait pas d'obstruction et qui n'a pas tenu parole. C'est ça aussi.
Mais
la
il n'a pas pu tenir ses troupes aussi.
Non,
c'est
il n'a pas tenu parole. Il n'a pas tenu parole. Voilà.
Parce que c'était pas tenable par rapport à ses électeurs et à ses troupes en interne.
Mais quand les troupes ne suivent pas, c'est le chef qui est en cause.
Finalement,
c'est vrai pour Patrick Kanner, comme c'est vrai pour Éric Ciotti.
Éric Ciotti, il est mis au défi, Éric Ciotti, sur ce terrain-là.
De ce que l'on voit, alors, en attendant la fin du film, là, en fin de semaine, est-ce que les institutions sortent renforcées ou affaiblies de ce que l'on voit, là, aujourd'hui?
Elles sortent caricaturées.
Ah oui.
Mais si j'ose dire, auto-caricaturées. C'est le fonctionnement qui est choisi en ce moment par ceux qui sèment la tempête tous les jours à l'Assemblée nationale, par ceux qui jouent un jeu opposé à ce qu'ils avaient annoncé au Sénat, par un gouvernement et un président qui ne sont pas sur la même longueur d'onde sur ce qui est la priorité, 49-3 ou vote normal, etc. C'est l'ensemble du système qui s'auto-caricature. En fait, sous notre nez.
Emmanuel Macron, il dit cul par-dessus tête, hein, quand il parle de ce genre de situation où rien ne tient au bon endroit, n'est-ce pas ?
Merci Alain Duhamel, merci Anna Cabana du 49.3 de son éventuelle utilisation.